Chapitre 50.
Roll.
C'était au moins une heure avant le lever du soleil sur Comriad. Abetik et moi, nous étions assis dans la chambre où dormait Aîné. Je m'étais momentanément assoupi. L'androïde était réveillé, il ne semblait jamais dormir, mais ce fut moi qui bondis le premier au chevet de la fillette. La lueur des témoins du biomoniteur, à la tête de son lit, était la seule chose qui éclairait la pièce. Au dehors, la tempête de sable faisait rage depuis des heures.
Roll.
Les moniteurs disaient que la fièvre était tombée. La douleur avait disparu. Seul demeurait l'électroencéphalogramme erratique. « Je suis là, ma grande. » Je lui pris la main. Ses doigts n'étaient plus brûlants.
« Tu as vu le Gritch ?»
La question me prit par surprise, mais je me dis un instant plus tard que ce n'était pas forcément de la préscience ou de la télépathie. J'avais parlé à la radio avec Abetik de ce que j'avais vu. Il avait dû laisser brancher les haut-parleurs de son communicateur et Aînée devait être assez consciente pour enregistrer ce qu'elle entendait.
« Je l'ai vu, » répondis-je. « Ne t'en fais pas. Il n'est pas ici. »«
Mais tu l'as vu ?»«
Oui. »
Elle me prit la main dans les siennes et se redressa sur le lit. Je vis briller ses yeux noirs dans la pénombre.
« Où, Roll ? Où l'as-tu vu ?»«
Sur le radeau. »
De ma main libre, je la repoussai gentiment contre son oreiller. La taie et sa chemise de nuit étaient trempées de sueur.
« Ne t'inquiète pas, ma grande, » lui dis-je pour la rassurer. Il était juste là, sans rien faire.
Il ne m'a pas suivi quand je suis parti.
« Il a tourné la tête, Roll ? Il t'a regardé ?»«
Oui, mais... » Je m'interrompis. Elle s'était mise à gémir doucement, la tête ballant d'avant en arrière contre l'oreiller.
« Aînée, ma petite fille, tout va bien, je t'assure. » « Rien ne va, Roll. Mon Dieu, tout est de ma faute. Je lui avais demandé de venir avec moi le dernier soir. Tu savais que je lui avais demandé ? Il a refusé. »
« Qui a refusé ? Le Gritch ?»
Abetik s'approcha derrière moi. À l'extérieur, le sable rouge crépitait contre la fenêtre et la porte coulissante.
« Non ! Non !»
halta Aînée, les joues luisantes de larmes ou de transpiration.
« Le père Glaucus !»
reprit-elle d'une voix si faible que le vent la couvrait presque.
« Le dernier soir, je lui ai demandé de nous accompagner. Je n'aurais pas dû, Roll. Ça ne faisait pas partie de mes rêves. Je lui ai demandé, et c'est ma faute. J'aurais dû insister. »«
Ne t'inquiète pas, » répétai-je. « Je suis sûr que le père Glaucus va très bien. »«
Non, Roll !»
gémit-elle.
Il est mort. La chose qui nous poursuit l'a tué avec tous les chitchatuks.
Je regardais de nouveau le moniteur. La température était toujours bonne malgré son délire. Je me tournai vers l'androïde, mais il était en train d'observer silencieusement l'enfant.
Tu veux parler du Gritch ?
Demandai-je.
C'est lui qui les a tués ?
Non, non, pas lui,
murmura-t-elle. Puis elle colla son poignet contre ses lèvres.
« Du moins, je ne pense pas que ce soit lui, »
reprit-elle au bout de quelques secondes.
« Non, j'en suis sûre. Ce n'était pas le Gritch. »
Soudain, elle me prit la main qu'elle serra très fort dans les siennes.
« Roll, est-ce que tu m'aimes ?»
Je ne pus que regarder dans le vague un instant sans répondre. Puis je balbutiais sans retirer ma main.
Bien sûr que je t'aime, ma petite aînée. C'est-à-dire...
Elle parut alors me voir pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée en murmurant mon nom.
Arrête,
me dit-elle en riant doucement.
Excuse-moi. Je me suis un peu décollée dans le temps. Bien sûr que tu ne m'aimes pas comme ça. J'oubliais quand nous étions. Qui nous étions l'un pour l'autre en ce moment.
Elle se laissa alors aller en arrière contre son oreiller et poussa un profond soupir.
Mon Dieu, c'est la veille du bosquet de Dieu. Notre dernière nuit de voyage.
Je ne savais pas encore si je pouvais attribuer un sens à tout ce qu'elle disait.
J'attendis en silence.
Achéné, demanda l'androïde, est-ce que notre prochaine destination sur le fleuve est le bosquet de Dieu ?
Je crois, oui,
déclara-t-elle d'une voix qui ressemblait davantage à celle de l'enfant que je connaissais.
Mais je n'en suis pas sûre. Tout est brouillé.
Elle se redressa de nouveau.
Ce n'est pas le Gritch qui nous poursuit, vous savez. Et ce n'est pas non plus la Pax.
Bien sûr que c'est la Pax, murmurai-je pour essayer de la ramener à la réalité. Ils nous suivent depuis, mais elle était en train de secouer obstinément la tête avec ses cheveux mouillés.
Non,
insista-t-elle.
Si la Pax en a après nous, c'est parce que le centre lui dit que nous sommes dangereux.
Le centre ? M'étonnai-je. Mais il est... Depuis la chute, il...
Il est bien vivant. Et plus dangereux que jamais. Lorsque Gladstone et les autres ont détruit le système d'Istrance qui fournissait au centre son réseau neural, il a battu en retraite. Mais il n'est jamais allé bien loin. Tu n'as pas encore compris, Roll ?
Non, répliquai-je. Je n'ai pas du tout compris. Où était-il s'il n'était pas loin ?
La Pax,
me dit-elle simplement.
Mon père, ou plutôt sa personnalité enregistrée dans la boucle de Schrön de maman, m'a expliqué tout ça avant ma naissance. Le centre a attendu que l'Église commence à se revitaliser sous Paul Duret, le pape Téliard Ier. Duret était un brave homme, Roll. Ma mère et mon oncle Martin le connaissaient. Il portait sur lui deux cruciformes, le sien et celui du père Lennart Hoyt. Mais Hoyt était faible.
Je lui tapotai gentiment le poignet.
« Écoute bien !»
me dit-elle en retirant son bras.
« Il peut se passer n'importe quoi demain sur le bosquet de Dieu. Je peux mourir. Nous pouvons tous mourir. L'avenir n'est jamais écrit d'avance, seulement esquissé au crayon. Si je meurs, et si tu survis, je veux que tu expliques à mon oncle Martin ou à qui voudra t'écouter.
Tu ne vas pas mourir, aîné.
Écoute !
Me supplia l'enfant, les yeux de nouveau pleins de larmes. Je hochai la tête et l'écoutai. Même le hurlement du vent sembla se calmer un peu.
Téliard fut assassiné la deuxième année de son pontificat. Mon père l'avait prédit. J'ignore s'il s'agissait d'agents du centre, ils utilisent des cybrides, ou de simples querelles politiques vaticanaises. Mais lorsque Lennart Hoyt fut ressuscité à partir de leur cruciforme commun, le centre passa à l'action. C'est lui qui a fourni la technologie permettant aux cruciformes de ressusciter les humains sans la débilité et la sexualité d'Épicura sur Hyperion.
Mais comment ? Répliquai-je. Comment les IA du technocentre ont-elles pu apprivoiser le symbiote du cruciforme ? Je trouvai la réponse avant même qu'elle ouvre la bouche pour me répondre.
C'est eux qui l'ont produit. Non pas le technocentre actuel, mais l'IU qu'il est appelé à créer dans le futur. Elle a envoyé les parasites dans le passé sur Hyperion, comme elle l'a fait avec les tombeaux du temps. Et elle les a testés sur cette tribu perdue d'Épicura, où les imperfections se sont révélées.
Et quelles imperfections ? M'exclamai-je. La destruction des organes reproducteurs et de l'intelligence, pas moins ?
Oui,
fit aîné en me prenant de nouveau la main.
Le centre a pu corriger ses défauts grâce à sa technologie avancée. Une technologie dont il a fait cadeau au nouveau pape, Lennart Hoyt, ou Jules VI.
Je commençais à y voir un peu plus clair. Un marché faustien, murmurai-je.
Le marché faustien ! Tout ce que l'Église avait à faire pour gagner l'univers, c'était vendre son âme.
Et c'est ainsi que le protectorat de la Pax a vu le jour, murmura Abétic d'une voix douce. Le pouvoir politique à travers le canon d'un parasite.
C'est le technocentre qui nous poursuit. Qui me poursuit ?
Reprit Aîné.
Je représente une menace pour lui, et pas seulement pour l'Église.
Je secouai lentement la tête. En quoi peux-tu les menacer ? Tu n'es qu'une enfant.
Une enfant qui a été en contact avant sa naissance Avec une personnalité cybride renégate. Ne l'oublie pas, Roll. Mon père était lâché pas seulement dans l'infosphère ou la mégasphère, mais dans la métasphère. Lâché dans le vaste psycho-cerbéréseau dont même le centre était absolument terrifié.
Des lions, des tigres et des ours, murmura Abétic.
Précisément,
fit Aîné.
Quand la personnalité de mon père est entrée dans la mégasphère du centre, elle a demandé à l'IA Humon de quoi le centre avait peur. La réponse fut qu'il ne s'étendait pas plus loin dans la métasphère, parce qu'elle était remplie de lions, de tigres et d'ours.
Je n'y comprends plus rien, murmurai-je. Je suis complètement perdu.
Elle se pencha en avant tout en accentuant sa pression sur ma main. Je sentis son haleine sur ma joue. Elle était tiède et suave.
Tu as pourtant lu les cantos de mon oncle Martin, Roll. Qu'est-il arrivé à la Terre?
L'ancienne Terre? Demandai-je stupidement. Dans les cantos, l'IA Humon disait que les trois tendances du technocentre étaient en guerre. Nous en avons déjà discuté.
Rafraîchis-moi la mémoire.
Humon a dit à la personnalité Keats, ton père, que les volages cherchaient à détruire l'humanité alors que les stables, sa tendance, voulaient la sauver. Ils ont donc organisé une fausse destruction de la planète par un trou noir et l'ont mise en sécurité dans le nuage de Magellan ou dans la Madercule, l'un ou l'autre. Quant aux ultimistes, la troisième tendance, ils se fichaient pas mal de ce qui pouvait arriver à l'ancienne Terre ou à l'humanité du moment que leur projet d'intelligence ultime aboutissait. Elle attendit que je continue. En ce qui concerne l'Église, repris-je d'une voix un peu hésitante, elle partage la croyance générale selon laquelle l'ancienne Terre aurait été engloutie par le trou noir et serait morte à l'époque indiquée.
Et toi, à quelle version crois-tu, Roll?
Je pris une profonde inspiration.
Je n'en sais rien, répondis-je.
J'aimerais bien que l'ancienne Terre existe encore, je suppose. Mais ça ne me paraît pas si important que ça, tout compte fait.
Et s'il y avait une troisième possibilité?
Les portes vitrées se mirent soudain à trembler bruyamment. Je posai la main sur la crosse de mon pistolet à plasma, en m'attendant plus ou moins à voir surgir le Gritch. Mais ce n'était que le vent du désert qui redoublait de violence.
Une troisième possibilité? Répétai-je.
Humon a menti. L'IA a menti à mon père. Aucun élément du centre n'a déplacé la Terre. Ni les stables, ni les volages, ni les ultimistes.
Ce qui signifie qu'elle a été détruite?
Non. Mon père n'a pas compris tout de suite. Ce n'est que plus tard qu'il a saisi. La Terre a bien été transportée dans le nuage de Magellan, mais pas par des éléments du centre. Il ne disposait ni de la technologie, ni des ressources en énergie, ni du degré nécessaire de contrôle de l'espace qu'il y. Le centre ne peut même pas se transporter lui-même dans le nuage de Magellan. C'est trop loin. C'est incroyablement loin.
C'est qui alors? Demandai-je.
Qui a volé l'ancienne Terre?
Elle se laissa aller en arrière contre l'oreiller.
Je ne sais pas. Je ne crois pas que le centre le sache non plus. Mais ils n'ont pas envie de savoir au demeurant. Ils sont terrifiés à l'idée de ce que nous allons peut-être découvrir.
Abétic s'avança en disant « Ce n'est pas le centre qui a activé les portails distants sur notre passage ?»«
Non. »«
Est-ce que nous allons découvrir qui c'est ?» demandai-je.
« Si nous survivons, oui. Seulement si nous survivons, Roll. »
murmura-t-elle en fermant ses yeux, qui étaient fatigués mais non fiévreux.
« Ils seront là demain à nous attendre, »
poursuivit-elle.
« Et je ne veux pas parler du prêtre capitaine et de ses hommes, mais de quelqu'un ou quelque chose qui est envoyé par le centre pour nous faire du mal. »
Cette chose dont tu disais qu'elle a tué le père Glaucus, Cushiat et les autres? Demandai-je.
Oui.
C'est une vision que tu as eue? Quelque chose comme ça? Pour le père Glaucus?
Pas vraiment une vision,
me dit-elle d'une voix faible.
Plutôt un souvenir du futur. Un souvenir certain.
Je me tournai vers la tempête de sable, qui semblait maintenant diminuer d'intensité.
Nous pouvons rester ici,
déclarai-je.
Nous pouvons prendre un glisseur ou un VEM qui fonctionne, gagner l'hémisphère nord et nous cacher à Ali ou dans une autre cité mentionnée dans le petit guide. Nous ne sommes pas obligés de jouer leur jeu ni de franchir ce portail d'Istrance demain.
Tu te trompes,
me dit Aîné.
Nous y sommes obligés.
Je voulus protester, mais les mots ne sortirent pas de ma gorge serrée. Au bout d'un moment, je demandai « Et le Gritch, dans tout ça? Quel rôle joue-t-il ? » ?»«
Je l'ignore, »
me dit-elle.
« Tout dépend de qui l'envoie cette fois-ci. Ou il agit peut-être pour son propre compte, je ne sais pas. »«
Pour son propre compte ? » ?»« Je croyais que ce n'était qu'une machine. »
« Non ! Ce n'est pas qu'une machine. »
Je me frottai la joue. Je ne comprends pas. Est-il possible que ce soit un ami?
Un ami? Impossible.
Elle se redressa et passa sa petite main sur ma joue, à l'endroit où je venais moi-même de me la frotter.
Désolé, Roll,
me dit-elle.
Je ne cherche pas à être évasive, crois-moi. C'est juste que je ne sais pas. Il n'y a rien d'écrit. Tout est fluide. Et quand j'ai la vision de quelque chose qui bouge, c'est comme si je contemplais un magnifique tableau peint sur du sable une seconde avant que le vent vienne tout balayer.
Le dernier sursaut de tempête, à l'extérieur, secoua les fenêtres comme pour illustrer sa comparaison. Elle me sourit.
Excuse-moi d'avoir décollé du temps tout à l'heure,
me dit-elle. Décoller du temps?
Cette question que je t'ai posée, quand je t'ai demandé si tu m'aimais, j'avais oublié à quel moment et à quel endroit nous sommes.
Au bout de quelques secondes, je murmurai « Ne t'en fais pas, ma petite fille. Je t'aime, et si quelqu'un veut te faire du mal demain, il faudra qu'il me passe d'abord sur le corps, que ce soit l'église ou le centre ou n'importe quoi d'autre. » J'essaierai également de prévenir une telle éventualité, H-Aîné, déclara Abétic. Elle sourit et prit nos deux mains dans les siennes.
Le bûcheron de fer blanc et l'épouvantail,
murmura-t-elle.
Je ne mérite pas de si bons amis.
Ce fut mon tour de sourire. Grand dame m'avait raconté cette très vieille histoire. Je ne vois pas le lion poltron, déclarai-je. Le sourire d'Aîné s'effaça.
C'est moi,
dit-elle d'une voix tranquille.
C'est moi la poltronne.
Aucun de nous ne dormit davantage cette nuit-là. Nous préparâmes nos affaires et descendîmes au radeau dès que les premières lueurs de l'aube teintèrent les collines en rouge derrière la cité. Chapitre 51. En raison de la vitesse relativement basse à laquelle le Raphaël arrive au point de translation dans le système de Sol Draconi, elle a moins de décélération à absorber pour descendre dans l'espace du bosquet de Dieu. Tout se passe de manière feutrée, à un peu moins de 25 gravités, et ne dure pas plus de 3 heures. Bien installée dans sa crèche de résurrection capitonnée, Radamante Némès attend tranquillement que ce soit fini. Quand le vaisseau amorce son orbite autour de la planète, elle ouvre le couvercle du sarcophage et va dans la cabine vestiaire pour s'habiller. Avant de quitter l'espace de commandement pour se laisser glisser dans le tube du vaisseau de descente, elle jette un coup d'œil au moniteur de crèche et entre en liaison directe avec l'ordinateur du vaisseau. Les 3 autres sarcophages fonctionnent normalement. Ils sont programmés pour la période de résurrection habituelle de 3 jours. Lorsque De Soya et ses hommes se réveilleront,
elle sait que le problème aura été résolu. Avec son microfilament, elle charge dans l'ordinateur les mêmes directives d'effacement et les mêmes instructions prioritaires que celles qu'elle a déjà utilisées dans le système de Sol Draconi. Le système de bord accuse réception du programme de rotation du vaisseau de descente et se prépare aussitôt à l'oublier. Avant de se propulser dans le sas du vaisseau, elle tape la combinaison de son casier de vestiaire personnel. À côté de quelques vêtements de rechange et de souvenirs personnels factices, des holos de famille et un paquet de fausses lettres d'un frère imaginaire, la seule chose qu'il y a dans ce casier est une ceinture standard avec des poches. Quelqu'un qui aurait la curiosité de regarder dans ses poches n'y trouverait qu'un petit ordinateur de la taille d'une carte à jouer, d'un modèle courant qu'on peut se procurer dans n'importe quel drugstore pour 9 ou 10 florins, une bobine de fil, 3 flacons de pilules et un paquet de tampons hygiéniques. Elle passe la ceinture autour de sa taille et entre dans le vaisseau de descente. Même en orbite, à 30 000 km d'altitude, le bosquet de Dieu, quand il est visible à travers l'épaisse couche de nuages de son atmosphère, offre un aspect complètement ravagé. Au lieu d'être divisé en continents et océans distincts, la planète a tectoniquement évolué en une masse continentale unique parsemée de longs loques d'eau saumâtre qui ratissent le paysage comme des marques de griffes sur le tapis vert d'un billard. Outre ces loques et d'innombrables petits lacs de forme allongée qui suivent les lignes de faille à travers tout le continent vert, il y a aujourd'hui des milliers de lacérations brunes aux endroits où l'invasion extro, ou du moins ce que les humains croient toujours être l'invasion extro, a arrosé ce territoire paisible de ses missiles il y a près de 300 ans. Tandis que le vaisseau descend, secoué dans l'atmosphère et dans les couches ionisées, déchirant l'air d'un triple bang hypersonique, Némès observe la surface qui monte à elle à travers les masses de nuages en mouvement. La plupart des forêts de séquoias recombinants de 200 mètres de haut, qui avaient attiré à l'origine la fraternité du Muir sur ce monde, ont disparu, carbonisées dans l'incendie planétaire qui a amené l'hiver nucléaire. De larges secteurs des hémisphères sud et nord sont encore tout blancs sous l'effet des chutes de neige et de la glaciation, qui commencent seulement à s'estomper à mesure que la couverture nuageuse s'écarte sur une bande d'un millier de kilomètres de part et d'autre de l'équateur. Et c'est précisément cette zone équatoriale en train de se reconstituer qui est la destination de Némès. Elle prend le contrôle manuel du vaisseau de descente, dans l'ordinateur duquel elle insère son filament de connexion. Elle commence à étudier les cartes planétaires qu'elle a chargées en mémoire à partir des banques de données centrales du Raphaël. Voilà. Le Tétis avait un cours de 160 km, principalement d'ouest en est, contournant les racines de l'arbre-monde du bosquet pour passer devant le musée du Muir. Elle constate que la majeure partie de la visite organisée du Tétis se situait sur un immense arc semi-circulaire où le fleuve faisait ses méandres autour d'une petite partie de la circonférence nord de l'arbre-monde. Les Templiers se considéraient comme la conscience écologique de l'hégémonie. Ils donnaient toujours leur opinion, sans qu'on leur demande rien, sur toutes les entreprises de terraformation du Retz ou des confins. Et l'arbre-monde était le symbole de leur arrogance. En fait, cet arbre était quelque chose d'unique dans l'univers exploré, avec son tronc d'un diamètre supérieur à 80 km et son branchage qui s'étendait sur plus de 500 km autour de lui, l'équivalent de la base du légendaire Olympus Mons de Mars. C'est en outre le seul organisme vivant qui a poussé ses ramifications si haut dans l'atmosphère, aux confins de l'espace. Il a disparu aujourd'hui, naturellement, saccagé et calciné par la flotte extro qui a dévasté toute la planète juste avant la chute. À la place du glorieux arbre vivant, il ne reste plus que la souche du monde, un tertre de cendres et de carbone qui ressemble au reste d'un vieux volcan bouclier. Les Templiers ont disparu, morts ou en fuite sur leur vaisseau arbre propulsé par des ergues le jour de l'attaque. Le bosquet de Dieu, depuis plus de 2 siècles et demi, est complètement abandonné. Radamante Némès n'ignore pas que la Pax aurait depuis longtemps recolonisé la planète, si le centre ne lui avait pas ordonné de renoncer à cette entreprise. Les IA ont leurs propres projets à long terme en ce qui concerne le Bosquet de Dieu, et cela n'a rien à voir avec la présence de missionnaires ou de quelconque colonie humaine. Némès trouve sans peine le portail d'Istrance en amont. Il semble minuscule à côté des versants cendreux de la souche du monde, au sud. Elle se met en vol stationnaire au-dessus de lui. Des repousses tapissent le bord du fleuve et les pentes calcinées érodées par le temps. Ce sont de simples broussailles en comparaison de l'ancienne forêt, mais il y a tout de même des arbres qui atteignent 20 mètres de haut, et elle aperçoit des sous-bois touffus là où la lumière du soleil pénètre au fond des ravins. Ce n'est pas l'endroit rêvé pour une embuscade. Elle pose le vaisseau de descente sur la rive nord et s'avance à pied en direction de l'arche. Elle retire un panneau d'accès sous lequel se trouve un module d'interface. Elle décolle la peau humaine qui recouvre son poignet et son bras droit. Elle la met soigneusement de côté pour le retour au Raphaël et se connecte directement dans le module pour accéder aux données. Ce portail n'a pas été activé depuis la chute. Le groupe d'aînés n'est pas encore passé par ici. Elle retourne au vaisseau de descente et survole la rivière en aval à la recherche de l'endroit parfait. Il ne faut pas qu'il puisse s'échapper par voie de terre, et il doit y avoir suffisamment de végétation pour la dissimuler avec son attirail, mais pas assez pour permettre à Aîné et ses compagnons d'y trouver refuge. Il faut aussi qu'elle puisse nettoyer facilement les lieux lorsque la boucherie sera finie. Elle préférerait pour cela une surface rocheuse, un endroit qu'elle puisse laver avec de l'eau avant de regagner le Raphaël. Elle découvre l'endroit idéal à une quinzaine de kilomètres à peine en aval. Le Tétis, ici, pénètre dans des gorges et se transforme en une série de rapides créés par les bombardements des extros et par la série d'avalanches qui leur ont succédé. De nouveaux arbres ont poussé sur le versant cendreux à l'entrée de la zone des rapides et le long des étroits torrents qui les alimentent. Les gorges proprement dites sont bordées de gros éboulis et de larges plaques de lave noire qui ont glissé jusqu'en bas pendant les bombardements extros et formé des terrasses en se refroidissant. Le terrain est trop accidenté pour qu'un portage du radeau soit possible, et s'ils choisissent de franchir les rapides, ils seront tellement absorbés par leur tâche qu'ils n'auront pas le temps de surveiller les rives. Elle pose le vaisseau de descente à 1 kilomètre de là, au sud, sort du casier AEV un sac à prélèvement scellé sous vide, le glisse derrière sa ceinture, camoufle le vaisseau à l'aide de branchages et part au trot en direction du fleuve. Elle prend la bobine de fil dans sa ceinture, en dégage l'extrémité et sort plusieurs centaines de mètres de microfilaments invisibles qu'elle tend plusieurs fois au-dessus des rapides, comme des fils d'araignée indétectables. Puis elle étale une bave transparente à base de polycarbonate, à la consistance de sève naturelle, sur la face tournée vers la rive des saillies où elle ancre le fil, à la fois pour se donner une référence visuelle et pour empêcher le monofilament de mordre dans les rochers et les arbres là où il entre en contact avec eux. Même si quelqu'un remonte le fleuve à pied en passant par les plaques de lave et les gros blocs, la bave aura l'apparence d'une traînée de sève ou de lichen. Même le Raphaël serait entamé en une douzaine d'endroits si quelqu'un essayait de le faire voler maintenant au-dessus du fleuve. Quand le piège est en place, Némès se déplace vers l'amont sur le seul terrain plat qui borde le fleuve. Elle ouvre un flacon de pilules et éparpille au sol et dans les arbres plusieurs centaines de mines miniatures. Ces micro-explosifs en polymère caméléon prennent aussitôt la couleur et la texture du terrain où ils sont tombés. Chaque mine est capable de repérer sa cible qui court ou qui marche et de se diriger vers elle par petits bonds avant d'exploser. La charge creuse s'oriente d'elle-même de manière à pénétrer dans la cible. Les mines sont activées par la proximité d'un battement de poux, d'exhalation de dioxyde de carbone ou de chaleur corporelle, de même que par la pression d'un pas dans un rayon de 10 mètres. Némès étudie le terrain alentour. Ce secteur plat est le seul situé à proximité des rapides où une personne à pied peut essayer de se réfugier. Avec les mines implantées partout, aucune créature vivante se déplaçant à pied n'a la moindre chance de survivre. Elle retourne au petit trot jusqu'à l'éboulis et active les capteurs des mines au moyen d'une pulsation codée. Pour empêcher qui que ce soit de remonter le fleuve à la nage, elle ouvre quelques-uns de ses étuis de tampons et jette dans l'eau plusieurs poignées de petits œufs de perce-oreille à coquille en céramique. Ils ressemblent au fond de l'eau à des galets ordinaires. Quand une ou plusieurs créatures vivantes passent au-dessus d'eux une première fois, ils s'activent et il ne se passe rien. Mais si l'une des créatures essaie de revenir en arrière, les perce-oreilles de la taille d'un moustique sortent de leur coquille de céramique et fendent l'eau ou l'air pour vriller le crâne de leur objectif et exploser en une masse de minuscules filaments après avoir établi le contact avec le tissu cérébral. Perché sur un rocher à une dizaine de mètres au-dessus des rapides, Radamante Nemes s'allonge sur le dos pour attendre. Les deux seuls objets qui restent dans sa ceinture sont la carte ordinateur et le sac à prélèvement. L'ordinateur est le gadget le plus évolué dont elle se soit munie pour cette expédition de chasse. Les entités qui l'ont créé spécialement pour elle l'ont surnommé le piège à sphinx, d'après le tombeau du même nom sur Hyperion, que les mêmes IA ont également conçu. Il est capable de produire une bulle de 5 mètres de diamètre, contenant un champ anti-entropique ou hyper-entropique. L'énergie nécessaire pour créer une telle bulle pourrait alimenter en électricité une planète comme le Vecteur Renaissance durant 10 ans. Mais Nemes n'a besoin que d'un déplacement temporel de 3 minutes. Elle retourne la carte mince entre ses doigts et se dit qu'on aurait dû l'appeler plutôt le piège à Gritch. La petite femme trapue à la main sans peau scrute de nouveau le fleuve en amont. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre à présent. Le portail est à 15 km d'ici, mais elle saura exactement à quel moment ils le franchiront. Elle est sensible aux distorsions distance. Elle s'attend à ce que le Gritch soit avec eux, et elle est à peu près certaine qu'il la traitera en ennemi. En fait, elle serait terriblement déçue s'il n'était pas là ou s'il ne lui était pas hostile. Radamante Nemes prend le dernier article de sa ceinture. Le sac à prélèvement est exactement ce qu'il semble, une poche à échantillons scellés sous vide pour activité extravéhiculaire. Elle s'en servira pour rapporter la tête de la fillette au Raphaël, où elle la mettra dans le casier secret situé derrière le panneau d'accès à la tuyère de fusion. Ses maîtres exigent une preuve. Elle esquisse un sourire et change de position sur la dalle de lave noire de manière à sentir la douce chaleur du soleil sur son visage. Puis elle se couvre les yeux de son poignet normal et s'autorise un petit somme. Elle n'a plus qu'à attendre. Chapitre 52. J'avoue que je m'attendais à ce que le Gritch soit parti lorsque nous arrivâmes au bout de la rue de Meshed, peu avant l'aube de cette dernière journée fatidique. Mais il était toujours là. Nous nous figeâmes tous les trois à la vue de l'immense statue chromée haute de 3 mètres et hérissée de lames qui occupait notre petit radeau. La chose se tenait exactement à l'endroit où je l'avais vue la veille. J'avais reculé alors le fusil pointé, mais je m'avançais prudemment cette fois-ci, le fusil toujours pointé. « Du calme !» me dit Aîné en posant la main sur mon bras. « Qu'est-ce qu'il veut, bon sang ?» demandai-je en faisant glisser la sécurité du fusil et en insérant la première cartouche au plasma dans la chambre. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Mais tu ne lui feras rien avec cette arme. » Je m'humectais les lèvres et baissais les yeux vers l'enfant. J'avais envie de lui dire qu'un projectile au plasma était capable d'opérer des ravages sur tout ce qui n'était pas protégé par 20 cm de blindage moderne. « En tout cas, on ne peut pas monter sur le radeau pendant qu'il y est », murmurai-je en baissant légèrement mon arme. Elle exerça une pression plus forte sur mon bras, puis le lâcha.
« Il le faut »,
dit-elle en s'avançant vers le quai. Je me tournai vers Abétique, qui ne semblait pas plus heureux que moi à cette idée. Puis nous rattrapa Méné. De près, le Gritch était encore plus terrifiant à voir que de loin. J'avais utilisé le terme de statue à son propos un peu plus haut, et il avait effectivement quelque chose de sculptural, si tant est que l'on puisse imaginer une sculpture hérissée de pics chromés, de barbelés, de lames de rasoir, d'épines et de plaques de métal.
Il était énorme. Il me dépassait de plus d'un mètre et je ne suis pas petit. Sa forme était complexe. Il avait des jambes épaisses, aux jointures entourées de bandeaux hérissés d'épines, les pieds plats, avec des lames courbes à la place des orteils et une lame plus longue en forme de cuillère à la place du talon. Un outil parfait pour éventrer une victime. Plus haut, un ensemble compliqué de coquilles chromées servant de carapace alternait avec des bandes de barbelés acérés. Les bras étaient d'une longueur démesurée par rapport au corps. Ils avaient trop de jointures, et ils étaient au nombre de quatre, la paire surnuméraire prenant naissance sous la racine de la plus grande. Quatre mains énormes, avec des doigts en forme de lame, pendaient mollement à ses côtés. Le crâne était presque lisse et étrangement oblong, avec une mâchoire en forme de pelle mécanique incrustée de plusieurs rangées de dents métalliques. Une lame en forme de croissant ornait son front, et une deuxième plus haut formait la crête de son crâne blindé. Ses yeux étaient grands, enfoncés, d'un rouge mat.
« Tu veux voyager avec ça ?»
chuchotai-je. Nous étions à 4 mètres du bord du quai. Le Gritch n'avait pas tourné la tête pour nous regarder. Ses yeux semblaient aussi morts que des cataphotes, mais notre instinct nous poussait presque invinciblement à tourner les talons et à fuir au plus vite.
Il faut monter sur le radeau,
murmura la fillette.
Il faut partir d'ici tout de suite. C'est notre dernier jour.
Sans quitter vraiment le monstre des yeux, je regardais le ciel et les bâtiments derrière nous. Après la violente tempête de sable de la nuit, on aurait pu s'attendre à ce que le ciel soit tout rose, mais le vent semblait avoir plutôt éclairci l'atmosphère. Les nuages rouges, portés par le dernier vent du désert, se déplaçaient encore rapidement dans le ciel, mais celui-ci était plus bleu que la veille, et le soleil commençait à effleurer le sommet des immeubles les plus hauts.
Je suis sûr que nous pourrions trouver un VEM en état de marche pour voyager avec classe,
murmurai-je, le canon de mon fusil levé.
Un truc avec un peu moins d'enjoliveur chromé, peut-être.
La plaisanterie tomba à plat, même à mes propres oreilles. Il m'avait fallu un effort surhumain pour avoir envie de faire de l'humour avec ça.
Suis-moi,
me dit Aînée. Elle descendit dans le radeau par l'échelle de fer du quai. Je la suivis en hâte, le doigt sur la détente de mon fusil braqué sur le cauchemar chromé et l'autre main sur un échelon après l'autre. Abétique me suivit sans un mot. Je n'avais pas fait attention à l'état de délabrement dans lequel était le radeau. Les troncs raccourcis étaient déformés et fendus en plusieurs endroits, l'eau recouvrait tout l'avant et venait lécher les pieds géants du Gritch, la tente était remplie de sable rouge à la suite de la tempête de la nuit. Le support de la godille semblait sur le point de craquer, et le matériel que nous avions laissé à bord était en désordre, comme abandonné. Nous rangeâmes nos paquetages sous la tente et demeurâmes immobiles, indécis, fixant des yeux le dos hérissé du monstre, guettant le moindre mouvement de sa part, comme 3 petites souris qui traversent sur la pointe des pieds le paillasson du chat endormi. Le Gritch ne se retourna pas. Son dos n'était pas plus rassurant que l'autre côté, mais au moins ses yeux rouges éteints ne nous fixaient pas. Aînée soupira et s'avança vers le monstre. Elle leva une petite main qui effleura sans le toucher le dos barbelé de la créature. Puis elle se tourna vers nous en murmurant.
« Tout va bien. On peut partir. »«
Comment est-ce que tout peut aller bien ?»
chuchotai-je d'une voix farouche. J'ignore pourquoi je jugeais utile de m'exprimer à voix basse. Mais quelque chose faisait que personne n'osait parler normalement à proximité de cette créature.
S'il voulait nous tuer aujourd'hui, nous serions déjà morts, nous dit-elle.
Elle se posta à bâbord, le visage encore blême et les épaules tombantes, pour saisir l'une des perches.
Larguez les amarres, s'il vous plaît,
demanda-t-elle à l'androïde.
Il faut partir, maintenant.
Abétique passa sans hésiter à portée du monstre pour détacher l'amarre de proue qu'il leva sur son bras. Je fis de même avec l'amarre de poupe, mais d'une seule main, sans lâcher mon fusil.
Le radeau prenait l'eau à cause de la masse de la créature à l'avant. L'eau passait sur les troncs, même à l'arrière, où se trouvait la tente. Plusieurs rondins à bâbord s'étaient partiellement détachés. « Faudrait faire quelques réparations », déclarai-je en tenant la godille d'une main après avoir déposé le fusil à mes pieds.
« Pas sur ce monde »,
me dit Aîné en poussant sur sa perche pour nous amener au centre du courant.
« Après le portail. »«
Tu sais où nous allons ?» Elle secoua la tête. Ses cheveux n'avaient pas la même souplesse ce matin.
« Tout ce que je sais, »
dit-elle,
« c'est que c'est notre dernier jour. »
Elle avait déjà dit cela quelques minutes plus tôt, et cela m'avait causé le même élan d'angoisse que maintenant.
« Tu en es sûre, ma grande ?»«
Oui. » »«
Mais tu ne sais pas où nous allons. »
« Pas de manière certaine. »
« Ça veut dire quoi, ça ?»«
Tu veux dire que... » Elle eut un sourire pâle.
« Je comprends ce que tu ressens, Rol. Je sais seulement que si nous survivons aux toutes prochaines heures, nous devrons partir à la recherche du bâtiment que j'ai vu dans mes rêves. »
« Et il ressemble à quoi ?» Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais se contenta de rester un moment appuyée à la perche. Le courant nous emportait maintenant au centre. Les grands bâtiments du cœur de la cité firent bientôt place, sur chaque rive, à de petits espaces verts bordés d'allées.
« Je le reconnaîtrai quand je le verrai, »
me dit-elle. Elle posa la perche sur le pont du radeau et vint à moi en me tirant par la manche pour me dire à voix basse.
« Si je ne survis pas, et toi, oui, tu répéteras à mon oncle Martin exactement ce que je t'ai dit, au sujet des lions, des tigres et des ours, des intentions du centre. »
Je la pris par ses frêles épaules.
« Je ne veux pas que tu parles ainsi, » murmurai-je. « Nous allons tous nous en tirer. C'est toi qui raconteras tout à ton oncle. »
Elle hocha la tête sans conviction. Puis elle retourna prendre sa perche. Le Gritch était toujours immobile, tourné vers l'avant, les pieds dans l'eau. La lumière du matin faisait briller ses épines et ses lames de rasoir. Je m'étais attendu à traverser un nouveau désert en quittant Meshed, mais je me trompais une fois de plus. Les espaces verts et les allées bordant le fleuve devenaient de plus en plus luxuriants. Il y avait là des épineux bleus et des essences de l'ancienne terre à feuilles caduques parmi une véritable prolifération de palmiers jaunes ou verts. Nous laissâmes bientôt les derniers bâtiments de la cité derrière nous. Le fleuve était large et rectiligne. Nous passâmes à travers une riche forêt encore plus dense. La matinée n'était pas très avancée, mais la chaleur du soleil était déjà écrasante. Nous n'avions pas besoin de godiller pour rester au centre du courant. J'ôtai ma chemise et la rangeai dans mon paquetage. Puis j'allais remplacer Aîné, qui tenait toujours la perche à bâbord. Elle était visiblement à bout de force. Elle leva vers moi ses yeux noirs, mais sans dire un mot. Abétik avait défait la micro-toile de tente pour en secouer le sable. Il vint s'asseoir à côté de moi tandis que le fleuve faisait une large courbe dans la forêt tropicale toujours très dense. L'androïde portait la chemise ample et le short jaune en lambeaux qu'il avait sur Hébron et sur Mare Infinitus. Son chapeau de paille à bord jaune était à ses pieds. Nous fûmes surpris de voir Aîné aller s'asseoir à l'avant, tout près du Gritch immobile, tandis que nous nous enfoncions dans la jungle touffue.
« Ce n'est pas naturel !» déclarai-je en redressant le radeau que le courant menaçait de déporter sur le côté. « Une jungle au milieu du désert ! Il ne peut pas tomber assez d'eau pour l'entretenir !»«
Je crois qu'il s'agit d'un très grand jardin tropical planté par les pèlerins religieux chiites, à Chandimion, » me dit l'homme bleu.
« Écoutez !»
Je tendis l'oreille. La forêt tropicale bruissait de cris d'oiseaux et de froissements de feuilles agités par le vent, mais je perçus en même temps les sifflements et les crachotements d'un système d'arrosage intermittent.
« Incroyable ! » m'écriai-je. « Ils utilisent toute cette eau précieuse pour entretenir un écosystème artificiel ? Il doit s'étendre sur des dizaines de kilomètres !»
un vrai paradis,
fit aînée.
Qu'est-ce que tu dis, ma grande ?
Demandai-je en poussant sur la perche pour nous remettre au centre du courant.
Les musulmans sur l'ancienne terre étaient principalement des gens du désert,
nous dit-elle à voix basse.
L'eau et la verdure étaient au centre de leur conception du paradis. Meshed était un grand centre religieux. Ce jardin devait être destiné à donner aux fidèles un aperçu de ce qui les attendait s'ils suivaient les enseignements d'Allah dans le Coran.
Une publicité qui devait revenir cher, estimai-je en donnant un coup de perche pour accompagner le radeau dans la nouvelle courbe que le fleuve faisait à gauche. Mais je me demande ce que tous ces gens sont devenus.
La Pax,
dit Aîné.
Hein ?
Demandai-je perplexe.
Ces mondes, Hébron comme Riyad ? Ils étaient sous domination extro quand leur population a disparu.
C'est ce que dit la Pax.
Je réfléchis sans répondre.
Qu'est-ce que ces deux planètes ont en commun d'après toi, Rol ?
Interrogea-t-elle. Je répondis aussitôt cette fois-ci. Elles étaient farouchement non chrétiennes, et elles refusaient d'accepter la croix, aussi bien les juifs que les musulmans. Elle demeura silencieuse.
C'est une terrible chose que tu suggères là, murmurai-je l'estomac soudain noué. L'Église peut se fourvoyer, le pouvoir de la Pax peut lui monter à la tête, mais...
J'essuyai la sueur qui coulait sur mes yeux.
Mon Dieu !
M'écriai-je répugnant à prononcer le mot qui me venait à l'esprit.
Un génocide ?
Elle se tourna alors pour me regarder. Derrière elle, les rayons du soleil se reflétèrent sur les lames du Gritch.
Nous n'avons pas encore de certitude,
me dit-elle à voix basse.
Mais nous savons qu'il y a des éléments, dans l'Église comme dans la Pax, qui n'hésiteraient pas à aller jusque-là. Souviens-toi, Rol, que le Vatican dépend presque entièrement du centre pour conserver sa mainmise sur les résurrections et à travers elle, sur les populations de toutes les planètes.
J'étais en train de secouer la tête.
Tout de même, un génocide.
Je n'arrive pas à y croire. Le concept évoquait pour moi des hommes comme Horace Glennon Haidt ou Adolf Hitler et non des personnages ou des institutions que j'avais connues de mon vivant.
Il se passe quelque chose de terrible,
me dit Aîné.
C'est sûrement la raison pour laquelle nous avons été appelés ici, en passant par Hébron et comme Riyad.
Tu l'as déjà laissé entendre plusieurs fois, murmurai-je en poussant sur ma perche. Appelé, mais pas par le centre.
Par qui, alors ?
Je regardais le dos du Gritch. Je transpirais abondamment sous le soleil torride. La haute créature n'était que l'âme froide et épine acérée.
Je l'ignore,
me dit l'enfant. Elle pivota soudain sur son séant, les avant-bras sur les genoux.
Voilà le portail,
nous dit-elle. Il se dressait, rouillé et envahi par la végétation grimpante, au milieu de la jungle luxuriante. Si nous étions toujours dans les jardins paradisiaques de Qom Riyad, ils étaient retournés à l'état sauvage. Au-dessus de la voûte de verdure, le ciel bleu avait toujours des tons rouges là où les nuages de sable étaient charriés par le vent. Posant ma perche après avoir bien centré le radeau dans le courant, j'allais chercher mon fusil, l'estomac toujours serré à la pensée du génocide. Il se serra encore plus lorsque je vis des images de cavernes de glace, de cascades, de mondes océaniques et aussi du Gritch s'animant soudain tandis que nous franchissions le portail à la rencontre de notre destin.
« Tenez-vous bien, »
murmurai-je inutilement au moment où nous passions sous l'arche. Le paysage devant nous devint flou et miroita comme si un rideau de brume s'était soudain abattu sur nous. La lumière changea, la gravité changea, et le monde autour de nous changea aussi. Chapitre 53. Le père capitaine de Soya est réveillé par un hurlement. Il lui faut plusieurs minutes pour se rendre compte que c'est lui qui hurle. Il ouvre le couvercle du sarcophage et s'assoit au milieu de la crèche. Il y a des voyants rouges et jaunes qui clignotent sur le tableau de surveillance, mais les principaux sont verts. Gémissant de douleur et de confusion, il s'extrait du sarcophage.
Son corps flotte au-dessus de la crèche. Ses mains ne trouvent aucun appui. Il s'aperçoit qu'elles sont d'un rouge luisant, comme si sa peau avait été brûlée.
Sainte Mère de Marie, où suis-je?
Il pleure. Les larmes forment des nuages humides qui tournent lentement devant ses yeux.
Où suis-je? Sous G0? Le Balthazar? Que s'est-il passé? Bataille spatiale? Brûlure?
Non. Il est à bord du Raphaël. Lentement, les dendrites meurtries de son cerveau se mettent au travail. Il flotte dans une pénombre éclairée par les instruments. Le Raphaël. Normalement, il devrait être en orbite autour du Bosquet de Dieu. Il a réglé, très dangereusement, les cycles de crèche de Grégorius, de Ki et de lui-même sur 6 heures au lieu des 3 jours habituels. Ils veulent jouer au bon Dieu avec la vie de leurs soldats, se souvient-il d'avoir pensé. À ce rythme, leurs chances de résurrection satisfaisantes sont réduites. De Soya se rappelle le deuxième courrier qui lui a apporté ses ordres sur le Balthazar. Le père Gavronsky. On dirait que cela s'est passé il y a des dizaines d'années. Sa résurrection a échoué. Le chapelain du Balthazar, comment s'appelait-il déjà? Le père Sapieha, oui. Il disait qu'il faudrait des semaines ou même des mois pour que Gavronsky soit ressuscité après cet échec initial. Un processus très lent et très douloureux, accusait-il. L'esprit du père capitaine de Soya commence à s'éclaircir, tandis qu'il flotte au-dessus de sa crèche. Toujours en impesanteur, comme il l'a programmé lui-même, il se souvient d'avoir pensé qu'il ne serait peut-être pas en état de se déplacer sous une gravité normale. Et il ne l'est pas. Il se propulse vers le vestiaire pour vérifier dans le miroir l'état dans lequel il se trouve. Tout son corps est d'un rouge luisant, mais il ne ressemble pas à un grand brûlé. Le cruciforme constitue une crête livide au milieu de sa chair à vif. Il ferme les yeux et met ses sous-vêtements et sa soutane. Le coton rêche lui frotte douloureusement ses chairs à vif, mais il n'y prête pas attention. Le café est monté dans le percolateur comme il l'a programmé. Il prend sa tasse sur la table de navigation et se propulse dans la cabine centrale d'où il vient. La crèche du caporal Ki est au vert. Dans quelques secondes, il va ressusciter. Celle de Grégorius clignote dans le rouge et l'ambre. De Soya jure doucement entre ses dents et se rapproche du panneau de surveillance de son sarcophage. Le cycle de résurrection a été interrompu. La résurrection précoce a échoué.
Bordel de Dieu, murmure-t-il.
Puis il fait acte de contrition pour avoir invoqué en vain le nom du Seigneur. Il avait besoin de Grégorius. La résurrection de Ki se passe à peu près bien, mais le caporal est dans un état de confusion mentale avancée et il souffre beaucoup. De Soya le conduit dans l'espace de toilette et passe un baume sur sa peau à vif. Puis il lui fait boire un peu du jus d'orange. Quelques minutes plus tard, Ki est en état de comprendre.
Il y avait quelque chose d'anormal, explique De Soya. J'ai dû prendre ce risque pour voir ce que la caporale Némès manigance.
Ki hoche la tête en signe d'approbation. Malgré la température confortable de la cabine, il tremble de tous ses membres. De Soya retourne avec lui dans la cabine de commandement. Le sarcophage de Grégorius a maintenant tous ses voyants au jaune. Le sergent est de nouveau mort. La crèche de Némès est au vert pour les 3 jours normaux du cycle. Les moniteurs indiquent qu'elle est sans vie à l'intérieur et qu'elle reçoit les sacrements secrets de la résurrection. De Soya tape le code d'ouverture. Des voyants clignotent et la voix impersonnelle du Raphaël se fait entendre.
Ouverture de la crèche non autorisée durant le cycle de résurrection. Toute tentative de passer outre pourrait se solder par la mort définitive de l'occupant.
De Soya ignore les lumières clignotantes et les signaux sonores. Il tire sur le couvercle. Il est bloqué.
« Donnez-moi ce levier, » dit-il à Ki.
Le caporal lui lance la barre d'acier à travers l'espace en impesanteur. De Soya l'insère dans la rainure du couvercle, murmure une prière pour ne pas se tromper et ne pas être parano. Puis il force le couvercle. Une alarme sonore retentit dans tout le vaisseau. Le sarcophage est vide. « Où est la caporale Némès ?» demande De Soya au vaisseau.
« Tous les capteurs et instruments indiquent qu'elle est dans sa crèche, » répond l'ordinateur du Raphaël.
« Je sais, » fait De Soya en lâchant le levier, qui vole en impesanteur dans un coin. « Venez, » dit-il à qui. Ils se propulsent l'un derrière l'autre dans le vestiaire. La douche est vide. Il n'y a aucun endroit où se cacher. De Soya regagne son fauteuil de commandement, tandis que le caporal Key va vérifier le tube de descente. Le tableau de bord indique qu'il se trouve en orbite stationnaire à une altitude de 30 000 km. Par la baie d'observation, De Soya aperçoit d'épais nuages en mouvement, à l'exception d'une large ceinture équatoriale où l'on voit la surface vert et brun de la planète, rayée de longues estafilades. Les instruments indiquent que le vaisseau de descente est à sa place, moteur éteint. Une demande vocale obtient confirmation du Raphaël que le vaisseau se trouve bien là où il doit être et que le SAS n'a pas été utilisé depuis la dernière translation. « Caporal Key ?» appelle De Soya sur l'interphone. Il faut qu'il se concentre de toutes ses forces pour empêcher ses dents de s'entrechoquer. La douleur est très réelle. Il a l'impression d'avoir tout l'épiderme en feu. Il éprouve une envie formidable de fermer les yeux et de se laisser sombrer dans le sommeil.
« Votre rapport !» aboie-t-il.
« Le vaisseau de descente n'est plus là, père capitaine !»
fait la voix de Key depuis le couloir d'accès.
« Tous les voyants sont au vert, mais si j'activais le sas, je me retrouverais dans le vide spatial. Je vois très bien par la baie transparente que le vaisseau n'est plus à sa place. »«
Merde !»
murmure tout bas De Soya.
« Bon, revenez !»
Il étudie les autres instruments en attendant. La double poussée de libération a bien été enregistrée il y a environ 3 heures. De Soya affiche la carte de la région équatoriale du Bosquet de Dieu et lance une recherche au télescope et au radar sur tout le secteur du fleuve à proximité de la souche du monde.
« Trouvez le premier portail d'Istrance et montrez-moi tout le tronçon du fleuve entre les deux endroits, »
commande-t-il.
« Localisez le transpondeur du vaisseau de descente. »
« Mes instruments indiquent que le vaisseau de descente est fixé à sa baume, » répond le vaisseau. « Son transpondeur le confirme. »
« Très bien, » fait De Soya. Il s'imagine en train de cogner sur des puces de silicium comme si c'était des dents.
« Ignorez le signal du vaisseau de descente, » ordonne-t-il. « Commencez les recherches au télescope et au radar sur la région indiquée. Signalez toute présence vivante et tout artefact. Affichez les résultats sur l'écran principal.
« Affirmatif, »
répond l'ordinateur. De Soya voit basculer l'image sur l'écran tandis que commence le zoom télescopique. Un portail d'Istrans se dresse au milieu de l'écran, vu de quelques centaines de mètres d'altitude.
« Suivez le fleuve en aval, » commande-t-il.
« Affirmatif. »
Le caporal Key se glisse dans le fauteuil du copilote et se sangle.
« Sans vaisseau de descente, » dit-il, « nous ne pouvons pas y aller. »
« Les armures de combat !»
fait De Soya à travers les ondes de douleur qui le secouent sur un rythme rapide.
« Elles sont munies d'un bouclier d'ablation, avec plusieurs centaines de micro-couches ablatives colorées, pour le cas où nous aurions à lutter contre un foyer de lumière cohérente. C'est bien cela. »«
C'est exact, » fait le caporal Key.
« Mais j'avais l'intention de vous envoyer en avant, le sergent Grégorius et vous, avec les combinaisons ablatives pour vous protéger durant l'entrée dans l'atmosphère. » J'aurais mis le Raphaël sur l'orbite la plus basse possible. Vous auriez pu vous servir d'un pactage auxiliaire à réaction pour vous rétropropulser.
Ces combinaisons peuvent faire l'affaire, n'est-ce pas?
Peut-être, fait le caporal Key, mais dans ce cas, utilisez les répulseurs EM et retrouvez cette femme. Empêchez-la d'agir. Ensuite, vous prendrez le vaisseau pour revenir.
Le caporal se frotte les yeux.
Ce serait faisable, père capitaine. Mais j'ai déjà vérifié les combinaisons. Aucune n'est intacte.
Intacte ?
Répète stupidement De Soya.
Quelqu'un a lacéré l'armure d'ablation.
ce n'est pas perceptible à l'œil nu. Mais j'ai fait faire un diagnostic d'intégrité de classe 3. Nous serions morts avant le blackout des couches ionisées.
Toutes les combinaisons ?
Sans exception, père capitaine.
De Soya réprime une nouvelle envie de proférer des jurons.
Nous allons descendre quand même avec le vaisseau, caporal, dit-il.
À quoi bon, père capitaine ?
Demande qui.
Nous serons quand même à plusieurs centaines de kilomètres de tout ce qui pourra se passer en bas, sans aucun moyen d'intervenir.
De Soya hoche la tête comme pour dire qu'il sait déjà tout cela, mais il entre néanmoins les paramètres dans le module de navigation. Son esprit embrouillé commet plusieurs erreurs, dont l'une au moins aurait eu pour conséquence de les faire calciner dans l'atmosphère du bosquet de Dieu, mais le vaisseau les détecte. De Soya modifie ses paramètres en conséquence.
Je dois vous mettre en garde contre une orbite aussi basse,
déclare la voix asexuée du système de bord.
Le bosquet de Dieu possède une haute atmosphère très volatile et 300 km ne suffisent pas à respecter la marge de sécurité fixée par...
Taisez-vous et obéissez !
Ordonne De Soya. Il ferme les yeux au moment de la mise à feu des réacteurs principaux. Le retour de la gravité rend la douleur encore plus insupportable dans tout son corps. Il entend gémir qui dans le siège couchette du copilote.
L'activation du champ de confinement interne pourrait adoucir l'inconfort d'une accélération de 4G,
déclare la voix du vaisseau.
Pas question !
Fait De Soya. Il a besoin d'économiser l'énergie. Les trépidations et la douleur se prolongent. Le bosquet de Dieu grandit à vue d'œil sur les moniteurs, dont il remplit bientôt les écrans.
Et si cette traîtresse avait programmé le vaisseau pour qu'il nous écrase dans l'atmosphère en cas de tentative de manœuvre avant son retour ?
Se demande soudain De Soya. Il sourit malgré l'accélération qui le cloue sur sa couchette.
Dans ce cas, elle ne rentre pas chez elle non plus.
La torture continue.